Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. 11 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu ce lundi matin sur la route Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. D'après des témoins, deux véhicules sont entrés en collision. Le président Félix Tshisekedi a clôturé hier dimanche le sommet des prières patriotiques à Kinshasa aux côtés des responsables religieux internationaux pour soutenir l'unité et la résilience de la République démocratique du Congo. Au Maniema, la société minière Punia KCC Mining dénonce les blocages dans l'exploitation à Punia et appelle les autorités à rétablir l'ordre. Pour en parler, nous recevons Maître Eloi Boudimboulia Bougoye, avocat conseil de PKM. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal. Province du Haut-Katanga, 11 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu ce lundi matin sur la route Kasumbalesa. D'après des témoins, deux véhicules sont entrés en collision. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent plusieurs corps inertes qui sont couchés et d'autres coincés dans un des véhicules accidentés. Le point avec Pone Munanga.
D'après le chargé de la division technique de la Commission nationale de prévention routière CNPR au Katanga, l'accident s'est produit vers le village Mako sur l'axe routier Lubumbashi-Kasumbalesa à une quarantaine de kilomètres de Lubumbashi. Une voiture de marque Wish est entrée en collision avec un minibus de marque Regus qui venait dans le sens contraire. Le choc a été violent à tel point que certains corps ont été coincés dans l'un des véhicules. Christophe Lia souligne que la cause de l'accident serait l'excès de vitesse et la mauvaise visibilité causée par la forte pluie de ce matin. Il précise que les blessés ont été conduits dans des structures hospitalières. Il ajoute que certains corps ont été acheminés dans différentes morgues, dont celle de l'hôpital de Kipushi, d'autres à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et de l'hôpital Jekamine Sud de Lubumbashi. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Par contre, au Kasai Oriental, l'avenue Monseigneur Kongolo est désormais ouverte à la circulation des piétons, des motocyclettes et des véhicules. Plusieurs têtes de ravin qui avaient fragmenté cette route à divers endroits depuis 1985 ont été maîtrisées par l'entreprise Safrimex qui a gagné le marché de modernisation. La réhabilitation de cette voie suscite une vive satisfaction parmi les habitants qui n'hésitent pas à exprimer leur joie. Les précisions avec Esther Ndalafina.
Il est désormais possible de circuler sur l'avenue Monseigneur Kongolo, long de près de 2 kilomètres. Cette route relie les quartiers des communes de Djoulou à ceux de Bipemba et c'est depuis près de 30 ans que les quartiers de ces deux communes étaient coupés dans son axe qui part du rond-point Petrombou et Tchombela. Des têtes de ravin ont même englouti des centaines de maisons résidentielles, rendant la circulation difficile même aux piétons. Dans le cadre du projet Tchilegelou, les habitants de ces deux communes peuvent de nouveau se fréquenter. La joie est immense.
C'était auparavant un ravin. Coup de chapeau à président Félix. Ah, vraiment, incroyable mais vrai, que ici, c'est un abattoir, ravin.
Je remercie aussi le président de la République pour tout ce qu'il a fait. Ce n'était pas comme ça, c'est depuis 1986 et 1982. Ce n'est pas encore fini. Mais quand même, c'est très bien. Ici, c'est dans les ravins. Vous passez avec les déguises, sans problème. On entrait dans ce ravin, on fait même à peu près 45 minutes pour ressortir. Même le président de la République.
La route est accessible. Cependant, les travaux ne sont pas arrivés à terme, indique l'Office de voirie et drainage OVD, signalant que l'ouverture de ce tronçon permet également de booster les activités économiques des habitants des deux communes. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Matadi, dans la province du Congo central, les occupants des terrains publics situés dans la commune de Mvouzi sont appelés à justifier leur présence sur ces espaces dans un bref délai. Le bourgmestre de Mvouzi, accompagné de l'équipe communale, mène une opération d'inspection sur les 10 sites. Il invite les personnes concernées à se présenter au bureau communal muni de tous les documents attestant leur droit d'occupation. Selon Oscar Mwinga, cette démarche vise à identifier expulser les occupants illégaux des terrains appartenant à l'État. Reportage signé Nana Plurich Mambo.
Une mission conjointe d'inspection a été menée vendredi dernier par le bourgmestre de la commune de Mvouzi, Oscar Mbuinga Tati, accompagné d'une équipe communale de l'aménagement du territoire. Cette première phase de l'opération s'est déroulée le long du tronçon routier reliant la galerie Makayavangu, les marchés Abako et les quartiers Kotazo, où plusieurs occupants des domaines publics ont reçu des convocations. La présence des agents de l'aménagement du territoire vise à examiner la situation foncière dans la commune, précise le bourgmestre. En cas d'irrégularité, les autorités annoncent que les constructions illégales seront démolies conformément aux dispositions du ministère de la Justice. Cette opération de contrôle s'est vue à la fois préventive et dissuasive dans le but de rétablir l'ordre dans la gestion du patrimoine public communal. Le bourgmestre de Mvouzi appelle les habitants concernés à coopérer, soulignant que la protection des espaces de l'État contribue à préserver l'avenir collectif de la commune. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Nous le disions en titre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce dimanche à la clôture du sommet des prières patriotiques organisé par l'Église de réveil du Congo au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. Ce grand rassemblement faisait suite au dîner des prières tenu la veille, samedi 8 novembre, au fleuve Congo Hôtel. Outre la présence de l'archevêque président et représentant légal de l'Église des réveils du Congo, Évariste Ejiba, l'événement a réuni des responsables du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit en RDC Fonarev, la révérende Paola White Ken, chef du bureau de la foi à la Maison Blanche aux États-Unis, ainsi que l'archevêque Nicolas Duncan Williams, venu du Ghana. Plus de détails avec vous, Alain Rung.
Selon la présidence de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a débuté son intervention en remerciant la conseillère de Donald Trump ainsi que l'archevêque Nicolas Duncan Williams pour leur visite en République démocratique du Congo, qualifiée de tournant dans le destin du pays. Dans son allocution, l'homme de Dieu venu du Ghana a déclaré « La RDC ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant à qui nous avons dédié ce pays s'est levé sur notre nation. » En amont, le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit Fonarev avait sensibilisé l'assistance à travers le témoignage poignant d'une survivante évoquant les souffrances liées à la guerre et son parcours de résilience. Dans le même registre, l'archevêque président Ejibaya Mapia a présenté le rapport à mi-parcours d'une pétition initiée par les évêques de l'Église de réveil. Il a affirme ce qui se passe en RDC est un génocide en référence au principe de Nuremberg de 1950 et au statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Dans le chapitre politique, lors d'une matinée politique organisée ce dimanche dans le quartier Kanluka, dans la commune de Ngalema Kinshasa, le parti En Vol a exprimé son opposition à toute tentative de révision de la constitution de la RDC. Le porte-parole provincial de cette formation politique d'opposition, Merdi Mazengo, a mis en garde contre une telle initiative qu'il juge susceptible d'aggraver la crise politique actuelle et de compromettre le processus de paix en cours. Il a par ailleurs insisté sur l'importance pour les Congolais de se préparer à participer aux élections générales prévues en 2028 conformément aux dispositions légales en vigueur. Merdi Mazengo était joint au téléphone par Blaise Ndongala Mayanda.
Vous savez bien que le changement de la constitution et le troisième mandat du président Tshisekedi va regresser le pays en arrière sur le plan de la démocratie et risque de renforcer la crise politique. Il ne reste plus que quelques 1130 jours pour que le régime actuel puisse amener le pays aux élections. Le chef de l'État a intérêt, durant cette période, à réhabiliter les routes, améliorer la desserte en électricité, en eau potable et restaurer la paix dans la partie est du pays. Les policiers doivent sécuriser la population et non tirer les coups de feu ainsi que les gaz lacrymogènes en blessant les paisibles citoyens. Je souhaiterais que les policiers aillent tirer les coups de balle aux ennemis du peuple dans l'est du pays. Je suis de retour et je pense que personne ne peut m'interdire de vivre au camp Luka. Vous avez fait montre de ténacité en participant à ce meeting populaire. Nous allons continuer la lutte contre toute idée de changement de la Constitution et contre aussi un éventuel glissement du régime actuel.
Sécurité à présent. Plus de 170 000 nouveaux déplacés internes sont enregistrés dans la province du Kwango. Cela à la suite des violences armées impliquant les miliciens Mobondo. C'est ce que révèlent des évaluations rapides multisectorielles réalisées entre août et septembre 2025 par les services étatiques et les ONG humanitaires locales du Kwango. Les conclusions de ces évaluations ont été transmises à Ochabandundu dans les zones de santé de Boko, Kenge et Popokabaka, affirme ce lundi le vice-président du cadre de concertation de la société civile du Kwango et président du réseau des ONG de défense des droits des déplacés internes, Rodi Symphorien Kwengo. Appelle le gouvernement central et les ONG à organiser des missions humanitaires conjointes pour venir en aide à ces populations totalement démunies. On l'écoute au micro d'Alain Irung.
171 049 nouvelles personnes ont été identifiées comme déplacées internes. Ces mouvements massifs de déplacés internes sont dus à l'intensification des facteurs de violences armées dans plusieurs localités des secteurs administratif de Bukangalonzo, Dinga et Lufuna durant la période allant de mars à août 2025. Ces déplacés internes ont urgemment besoin des abris décents, de la nourriture, de l'eau potable, de soins de santé de qualité et de la scolarisation de leurs enfants. Face à cette situation déplorable dans laquelle se trouvent ces déplacés internes, déplorons l'absence d'assistance humanitaire depuis le début de la crise par manque d'acteurs actifs dans ces trois zones de santé touchées par l'activisme des miliciens Mobondo.
Au Nord Kivu, la situation reste tendue ce lundi dans l'agglomération de Ngoulou, groupement Nyamaboko, territoire de Masisi. C'est après des violents combats ayant opposé toute la journée d'hier dimanche l'FC M23 aux combattants Wazalendo. Selon des sources locales, les axes Ntete, Kazinga et Ngoulou ont été affectés par des combats qui ont poussé des centaines d'habitants à fuir les milieux vers d'autres zones plus sûres. Ces sources affirment que certaines notabilités de la localité de Ngoulou serait passé sous occupation des rebelles M23, alors que les centres de l'agglomération seraient toujours sous contrôle des Wazalendo. Selon nos sources, la situation reste toujours volatile dans la zone. En Ituri, par contre, les structures locales de paix des différentes chefferies du territoire du Rumu sont désormais mieux outillées pour identifier et défendre les intérêts de leur communauté auprès des autorités compétentes. C'est à l'issue d'une formation de 2 jours organisée à Bunia par l'ONG Merci Corps. Objectif, renforcer la résilience des acteurs communautaires, de la société civile et de la jeunesse dans la prévention des conflits et améliorer la redevabilité entre autorités et citoyens. Isaac Remoyope.
Clôturée vendredi, cette formation a réuni autour d'une même table les autorités locales et les leaders communautaires dans le but de renforcer la confiance et la collaboration entre les deux parties. Les participants ont également élaboré un plan d'action pour chaque entité basé sur les priorités des communautés locales, notamment l'accès à la justice, les renforcements de la sécurité et la résolution des conflits liés aux limites administratives. Selon les directeurs du programme RECEP, cette initiative vise à améliorer les conditions de vie de la population.
L'intérêt n'est pas l'intérêt personnel. L'intérêt reste l'objectif final qu'on vise à aboutir en termes de changement d'habitude, de changement de mentalité et en termes d'amélioration même, pourquoi pas, cadre de vie.
Pour les participants ici des 8 communautés du territoire du Rumu, cette formation constitue une opportunité d'acquérir des compétences en négociation basées sur les intérêts communs, mais aussi d'identifier les défis majeurs qui entretiennent les conflits dans leur milieu. Pascal Kisezo, président de la CCV du Rumu.
Nous ne devons pas communautariser les cas, devons arriver à individualiser les cas et non de parler de son tribu ou de sa communauté pour que ça permette à ce que la paix revienne dans notre province et surtout dans le territoire du Rumu.
À noter que certaines structures de paix du territoire de Beni dans le Nord Kivu participent également à cette démarche d'échange et de renforcement des capacités. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Les employés de la direction provinciale de la Banque centrale du Congo plaident pour l'amélioration de leurs conditions sociales et de travail. Ils l'ont exprimé ce lundi à Kisangani à l'occasion de la clôture de la retraite stratégique organisée ce week-end sous la direction du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso. Plus de détails avec Jacques Moukonkole.
La Banque centrale du Congo est confrontée à plusieurs défis pour assurer son succès, reconnaissent ses employés, notamment la stabilité financière et la croissance économique du pays, ainsi que le renforcement de la formation et le développement professionnel. Néanmoins, ils recommandent l'amélioration de leurs conditions de travail et du bien-être social, comme l'explique la déléguée syndicale Elfie Gombo.
Votre prédécesseur a amélioré les salaires à un niveau. Nous espérons qu'avec votre détermination, vous nous donnerez une rémunération digne d'un banquier central au monde.
À ces besoins, il faut ajouter la carence en ressources humaines, l'insuffisance de matériel informatique et le manque de certains moyens logistiques. Le directeur provincial de la Banque centrale du Congo, Saïd Kibandwa, saisit l'autorité compétente pour des solutions idoines.
PC défectueux et difficile à utiliser, imprimante en nombre insuffisant. Les agents sont obligés de parcourir ce grand bâtiment toute la journée pour hasarder une imprimante ou une connexion et imprimer les documents. Une connexion Internet très instable. Pas de camion-fourgon, ce qui accroît le risque de nos multiples opérations de convoyage de fonds.
En réaction, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, rassure. Tous ces problèmes trouveront leur réponse dans le budget qui sera bientôt élaboré au terme de ce plan stratégique 2026-2031. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, les écoles et universités du pays accueillent à nouveau les élèves. Cela faisait 2 semaines que le cours était suspendu dans tout le pays. Les autorités maliennes de transition avaient dû prendre cette mesure exceptionnelle en raison de l'embargo sur les importations de carburant imposé depuis début septembre par les djihadistes du Nîmes liés à Al-Qaïda. La pénurie massive d'essence empêchait élèves et professeurs de se rendre dans leur établissement. C'est lundi matin, les cours ont repris.
L'invité.
Au Maniema, la société minière Punia KCC Mining, PKM, peine toujours à lancer l'exploitation industrielle dans le territoire de Punia. À cette difficulté s'ajoute le non-respect du code minier que l'entreprise déplore vivement. Face à cette situation, PKM interpelle les autorités compétentes à rétablir l'ordre dans le secteur minier. Pour en parler, nous recevons Maître Eloi Bundibulia Bougoye, avocat conseil de Punia KCC Mining, qui est notre invité. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Eloi Bundibulia Bougoye, bonjour.
Bonjour, madame Florence.
À ce jour, comment évoluent les activités de la société minière Punia KCC Mining?
La société Punia KCC Mining, qui a signé un contrat de joint venture avec la société Sakima, est devenue titulaire de permis depuis 2002. Et alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi l'industrialisation ne commence pas, l'exploitation industrielle. Au fait, les documents qui ont été donnés en appui des titres par Sakima à PKM, les documents de recherche, étaient tellement vétustes qu'ils ne pouvaient pas permettre de monter un business plan ou bien une étude de faisabilité appropriée. La société a été obligée de commencer d'abord par compléter les documents de recherche afin de pouvoir élaborer une étude de faisabilité qui est appropriée et à la hauteur du projet. Donc, à ce jour, nous sommes en train de finaliser ces études de recherche pour que, à la fin de cette année, nous puissions produire l'étude de faisabilité en bonne et due forme.
Ça montre que vous êtes bité à certains défis.
Oui, nous avons quelques difficultés parce que nous avons obtenu la propriété des titres depuis 2022. Mais compte tenu de ces recherches qui n'étaient pas suffisantes, nous devrions recommencer pratiquement à zéro. Mais aussi, nous avons des difficultés logistiques. L'accès à Punia n'est pas facile. Tout doit venir par Kisangani, Lubu, mais la route n'est pas praticable. Parfois, on paie même 2 mois pour que les camions arrivent à Punia. C'est pourquoi nous avons construit un aéroport qui va permettre de desservir Punia afin de pouvoir acheminer les matériels et les personnes.
Quelle est la capacité de cet aéroport?
C'est un aéroport de 2 km qui peut accueillir des avions de grande capacité comme les Airbus 320 de CAA. C'est vraiment un aéroport qui a une grande capacité.
À quand le début effectif de l'exploitation industrielle?
Oui, nous ne pouvons pas pas dire exactement à quand, mais nous voulons d'abord commencer par deux petites usines dans les PE19 et dans les PE235. Donc, en attendant que nous puissions acquérir la grande usine qui va vraiment booster les projets. Mais tout cela, nous le mettons au cours de l'année prochaine.
Malgré ça, vous exploitez les minerais à Pounia?
Nous n'exploitons pas les minerais. L'exploitation industrielle est incompatible avec l'exploitation artisanale. Mais dans notre joint venture, la société Sakima avait demandé que nous ne puissions pas chasser les artisanaux. Et c'est ce que nous avons fait, nous les avons maintenus. Mais les artisanaux doivent être sous notre contrôle. On ne veut pas les désordres. Nous voulons que tout exploitant artisanal, négociant, coopérative, entité de traitement, qui veut s'approvisionner dans les PKM, puisse signer un accord avec PKM. Autrement, nous allons considérer cette activité comme illégale et demander à l'autorité de sanctionner.
Aujourd'hui, c'est déjà 4 ans depuis que vous êtes installé à Pounia. Quel est l'impact de cette société à la communauté?
Oui, d'abord, nous avons travaillé avec le gouvernement provincial. La route qui relie Pounia à Lubutu, cette route était dans un mauvais état, mais avec l'appui de la province qui a donné le carburant et nous avons donné les machines, voilà, la route devient praticable. Deuxièmement, nous avons donné une barge sur la rivière Ngoli afin de faciliter la traversée de la population. Nous sommes aussi en train d'entretenir la voirie de Pounia. Nous l'entretenons régulièrement. Nous avons donné du travail déjà à plus de 100 personnes. Donc, nous croyons que nous allons faire revivre les rêves de la Somenki à la population de Pounia.
C'est-à-dire, vous êtes en train de respecter votre cahier des charges?
Nous ne pouvons pas encore commencer le cahier des charges parce que le cahier des charges commence avec l'exploitation. Mais déjà, nous avons déjà signé le cahier des charges. Les charges ont été transmises au gouverneur des provinces et le gouverneur des provinces qui devrait les transmettre au cadastre minier pour que le ministre des Mines puisse nous donner l'autorisation. Mais nous pensons que au début de l'année prochaine, nous aurons cette autorisation de commencer l'exécution du cahier des charges et ça va être chose faite.
Pour la deuxième fois, vous participez à cette conférence sur le mine, l'énergie et les infrastructures.
Oui, pour la deuxième fois, nous participons à cette conférence parce que nous voulons faire connaître à toute la population maniémienne ce que Pounia Kasese Mining est capable de faire. Pounia Kasese Mining, ça sera un grand partenaire du gouvernement provincial parce que avec les 7 permis d'exploitation que nous avons, nous pensons que nous allons être la première société au Maniema et la province va voir les retombées en termes des routes parce que nous allons aussi investir dans le secteur de l'énergie en réhabilitant la centrale de Belia. Donc, nous croyons que la province peut compter sur Pounia Kasese Mining.
Eloy Boudimboulia Bougoye, je vous remercie.
Merci, Madame Florence.
Fin de notre journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta, supervisé par Alain Irung et mise en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix.